Chapitre 6. La confession de Margrève. La vie dans le faubourg Saint-Germain paraissait bien triste à Elinor auprès de celle de la brillante société de Londres à laquelle elle avait été habituée depuis son mariage. La liste des invitations de sa tante était fort limitée. 4 ou 5 vieilles douairières qui croyaient que la gloire de l'univers s'était éclipsée avec les Bourbons et que la France, marchant à grands pas à l'avant-garde de la civilisation, était la première entraînée dans une espèce de ronde infernale, ne pouvant conduire qu'à l'établissement d'une nouvelle guillotine sur la place de la Révolution, 2 ou 3 vieux aristocrates, honorablement conservés, de l'ancien régime, dont les principes politiques n'avaient point changé depuis 1783, et qui, comme les pendules de cette époque, servaient à orner et embellir, mais étaient incapables de marquer l'heure, 3 ou 4 jeunes filles élevées au couvent et ne s'intéressant à rien d'autre chose qu'à la poésie de M. de Lamartine et aux fabriques de dentelles, et un vieux monsieur terriblement barbu qui avait écrit un volume de vers intitulé « Nuages et brouillards », mais qui n'avait pas eu encore la chance de trouver un éditeur, voilà la composition du cercle des intimes de la rue Saint-Dominique, et pour cette réunion, la tante d'Elinor avait une soirée désignée pour rester chez elle, avec adjonction d'eau sucrée, de thé très faible et de biscuits épais comme des pains à cacheter. Le jour même de l'arrivée d'Elinor se trouve juste le jour de réception de sa tante, et il lui semble que ces ennuyeuses heures ne finiront jamais, ni que les ennuyeux visiteurs ne s'en iront point. Elle se souvient combien les choses eussent été différentes si Margrève eût été présent. Comme il eût gagné la bataille du tiers-état contre les vieilles têtes blanches, partisans de l'ancienne noblesse, comme il eût discuté et fait une analyse critique des odes de Lamartine avec les jeunes pensionnaires du couvent, comme il eût flatté la vanité du poète barbu et regretté les Bourbons avec les vieilles douairières. Mais il était parti, effacé de sa vie, peut-être entièrement. « Je ne le reverrai plus, dit-elle, ce cher et honorable tuteur aux soins duquel mon père m'avait laissé. » Le lendemain, elle alla avec sa tante au Louvre pour voir les améliorations faites par les ordres de ce gouvernement qui avait déjà commencé son œuvre de régénération. Les peintures ne firent que la fatiguer, les couleurs de Rubens même lui semblèrent avoir perdu la moitié de leur beauté depuis qu'elle ne les avait vues, et Marie de Médicis, florissante et resplendissante, l'ennuya terriblement. Elle trouva beaucoup de nouvelles acquisitions, surenchéries d'une façon exorbitante, et elle pressa sa tante pour sortir de cette splendide exposition avant d'y être restée plus d'une demi-heure. Elle fit quelques achats au Palais-Royal et flâna pendant quelque temps chez une modiste, rue de l'Échelle, marchandant un nouveau chapeau, puis elle se déclara fatiguée par sa promenade matinale. Elle se renversa dans sa voiture et fut taciturne pendant qu'elle retournait à la maison, mais tout à coup, en tournant de la rue de Rivoli dans l'espace compris entre le Louvre et les Tuileries, elles croisèrent une voiture de place dans laquelle un monsieur était assis, et Elinor s'écria en tressaillant « Ma tante, mon tuteur, ne l'avez-vous point vu? Il vient de passer à l'instant dans une voiture de place. » Elle tira le cordon avec force tout en parlant et le cocher de sa tante arrêta, mais Margrève était hors de vue et le véhicule dans lequel il était assis se perdit dans la foule des voitures montant et descendant la bruyante rue. « Cela ne fait rien, ma chère Elinor, dit la tante à sa nièce, qui baissait le carreau de la voiture et regardait dehors avec inquiétude. Si vous ne vous êtes pas trompée sur le visage de la personne qui vient de nous croiser, et si c'est réellement Margrève, il est certain qu'il viendra immédiatement nous rendre visite. » « Me tromper sur le visage de mon tuteur, non certes, mais sans aucun doute il viendra nous voir, comme vous le dites, ma tante. » « Oui, il viendra ce soir très probablement. Il sait que je sors bien rarement. » Quel motif a pu l'amener à Paris ? Pensa Elinor. « Je sais qu'il me fuirait plutôt que de me chercher, car depuis la froideur qui existe entre lui et mon mari, il a toujours paru m'éviter. Aussi, je ne serai pour rien dans sa visite. Mais, pour sûr, il viendra ce soir. » Toute cette soirée et la matinée suivante, elle s'attendit constamment à ce que l'on annonçât l'avoué, mais il ne vint pas. « Il avait peut-être d'importantes affaires à terminer hier, » pensa-t-elle, « et il peut avoir été retenu ce matin, mais il est certain qu'il viendra ce soir. » Après dîner, elle s'assit auprès du feu, dans le petit salon de sa tante, tournant les feuillets d'un livre qu'elle s'était vainement efforcée de lire et regardant à chaque instant à la petite pendule de boule placée sur la cheminée, mais la soirée se passa lentement et, malgré tout, point de Margrève. Elle l'attendit le jour suivant, mais pour être encore désappointée, et de cette façon, la semaine s'écoula sans qu'elle reçût de ses nouvelles. « Il a dû quitter Paris, » pensa-t-elle. « Quitter Paris, sans être venu une fois me voir, rien ne pouvait plus que cela témoigner de sa complète indifférence, » ajouta-t-elle avec amertume. Sans aucun doute, ce fut uniquement pour l'amour de mon père qu'il a jamais pris intérêt à l'orpheline, restée seule au monde. La semaine suivante, Elinor alla une ou deux fois à l'opéra avec sa tante et à deux ou trois réunions dans le faubourg, dans lesquelles son charmant visage et ses élégantes manières firent quelques sensations. Mais, malgré tout, point de Margrève. S'il eût été à Paris, il est plus que probable que nous l'eussions rencontré à l'opéra, pensa Elinor. Cette semaine s'écoula et, le soir du dimanche, Elinor était assise, seule dans sa chambre, écrivant plusieurs lettres à quelques amis en Angleterre, lorsqu'elle fut interrompue par un appel de sa tante. Quelqu'un demandait à la voir immédiatement dans le salon. Quelqu'un dans le salon qui voulait la voir, serait-ce son tuteur, à la fin ? Un monsieur ou une dame ? Demanda-t-elle au domestique qui vint lui faire la commission. « Une dame, une sœur de charité. » Elle se hâta d'aller dans le salon et trouva, comme le domestique lui avait dit, une sœur de charité en conversation avec sa tante. « Ma chère Elinor, ma sœur désire que vous l'accompagniez pour visiter une personne malade que vous connaissez mais dont il lui est défendu de prononcer le nom. Que veut dire ce mystère ?»« Une personne malade qui désire me voir, » dit Elinor. « Mais je connais si peu de monde à Paris, personne qui puisse me demander. »« Si vous avez confiance en moi, madame, » dit la sœur de charité, « et si vous voulez m'accompagner chez cette personne, je crois que votre présence sera très utile. » L'esprit du malade est, j'ai le regret de le dire, dans un état de grande exaltation. Et vous seul, je le pense, serez capable, avec l'aide du ciel et de l'Église, de le soulager. « Je vais y aller !» dit Madame Dalton. « Mais, Elinor !» s'écria sa tante avec inquiétude. « Si je puis être de quelque utilité, ma chère tante, ce serait de la dernière cruauté, de la dernière lâcheté, de n'y point aller. Mais, ma chère enfant, lorsque vous ne connaissez point les personnes chez laquelle vous allez... »« Je me confie à cette sœur, » répondit Elinor, « et j'irai. Je vais mettre un châle et un chapeau, et je vous rejoins, madame. » dit-elle à la sœur de charité en s'élançant hors de la chambre. Une fois que ces jeunes filles se marient, il n'y a plus moyen de les tenir, murmura la tante d'Elinor en joignant ses mains grêles et blanches, ornées d'une quantité de vieilles bagues superposées les unes sur les autres. Je vous en prie, tâchez qu'on ne la garde point longtemps, dit-elle tout haut à la sœur de charité, qui regardait gravement les quelques morceaux de braise dans la petite cheminée anglaise. « Je vais souffrir les plus horribles tortures jusqu'à son retour. Elle sera parfaitement en sûreté avec moi, madame. »« Maintenant, ma sœur, je suis entièrement à vos ordres, » dit Elinor en rentrant dans la chambre. Au bout de quelques instants, elles furent assises dans une voiture de place, roulant dans le tranquille faubourg. « Allons-nous loin ?» demanda Elinor à sa compagne. « À l'hôtel Meurice. » « À l'hôtel Meurice ? Alors la personne que je vais voir n'habite point Paris ?»« Non, madame. » »« Qui cela pouvait-il être, n'habitant point Paris ?»« Quelqu'un d'Angleterre, sans doute. » »« Qui pouvait-ce être ?»« Son mari ou Margrève. » C'étaient les deux seules personnes qui se présentaient à son esprit, mais dans l'un ou l'autre cas, pourquoi ce mystère ? Elles atteignirent l'hôtel et la sœur de charité indiqua elle-même le chemin en traversant une salle fermée et puis montant jusqu'au troisième étage où elle s'arrêta tout à coup devant la porte d'un petit salon dans lequel elle entra suivie d'Elinor. Deux messieurs, évidemment des médecins, étaient à causer tout bas dans l'embrasure d'une croisée. L'un des deux leva les yeux en voyant les deux femmes entrer et la sœur de charité, s'adressant à lui, dit « Votre malade, monsieur Delville !»« Il est plus calme, ma sœur. Le délire est passé. Il a maintenant tout son bon sens, mais il est très faible, » répliqua le médecin. « Est-ce là la dame ? » dit-il en regardant Elinor. « Oui, monsieur Delville. »« Madame, dit le docteur, voulez-vous m'accorder quelques instants d'entretien ?»« Avec plaisir, monsieur. Mais avant tout, laissez-moi vous supplier de vous adresser une question. » « Pour l'amour de Dieu, dites-moi le nom de la personne malade. »«
C'est ce que je ne puis faire, madame. Son nom m'est tout à fait inconnu. »«
Mais les gens de l'hôtel ?»
l'ignorent aussi. Son porte-manteau n'a point d'adresse. Il est probablement venu ici pour un court séjour, mais a été retenu par une maladie très grave. »«
Alors, laissez-moi le voir tout de suite, monsieur. Je ne puis endurer cette incertitude. » « J'ai des raisons de penser que ce monsieur est un ami qui m'est bien cher. Laissez-moi le voir et alors je saurai tout. »«
Vous le verrez, madame, dans 10 minutes. »«
Monsieur le Russe, voulez-vous préparer le malade à une entrevue avec madame ?» L'autre docteur salua gravement et ouvrit une porte communiquant à un appartement intérieur dans lequel il entra, fermant soigneusement la porte après lui. « Madame, dit Delville, je n'ai été appelé ici que depuis 3 jours seulement pour visiter la personne couchée dans la chambre voisine. Mon collègue lui donnait ses soins depuis quelque temps pour un cas très grave de fièvre typhoïde. Il y a quelques jours, la maladie devint encore plus compliquée et plus difficile à cause d'une affection du cerveau qui survint et Monsieur le Russe, ne se sentant pas assez fort pour combattre ses difficultés, crut de son devoir d'appeler un autre médecin. » Je fus donc invité à venir. Comme mon collègue me l'avait annoncé, je trouvais le cas des plus extraordinaires. Il n'y avait pas seulement une faiblesse physique à combattre, mais aussi un affaiblissement moral. Affaiblissement moral d'un caractère si triste et si terrible que tous deux, Monsieur le Russe et moi, nous crûmes que si nous parvenions jamais à sauver la vie du malade, nous pourrions échouer à sauver sa raison.
« C'est terrible, c'est terrible !» dit Elinor.
« Pendant les 3 jours et les 3 nuits que je l'ai soigné, continua le docteur, nous n'avons pu obtenir que ce soir un moment de lucidité, mais pendant son délire, notre malade a toujours eu 2 ou 3 idées fixes qui, malgré leur caractère différent, peuvent, par un enchaînement de circonstances, se rattacher à une même source dans sa pauvre intelligence. » Dans ses divagations, il a eu constamment un nom sur les lèvres.
Et ce nom, c'est
Elinor Dalton.
Mon propre nom.
Oui, madame, votre nom, mêlé à de continuelles demandes de pardon pour un préjudice commis il y a longtemps et scrupuleusement caché.
Un préjudice commis, si c'est la personne que je suppose, elle n'a jamais été que l'amie le plus fidèle. « Mais, par pitié, laissez-moi le voir. Cette torture de l'attente me tue. »«
Un instant, madame, j'ai eu de la peine à vous trouver, mais répétant partout le nom de la dame que je cherchais, j'eus le bonheur de m'adresser à un ami de votre tante. Cette dévouée et bonne sœur Louise était prête à se mettre en route pour une œuvre de charité, et j'ai pensé que, peut-être, vous auriez plus de confiance en elle qu'en moi. » À cet instant, la porte de communication s'ouvrit lentement et l'autre médecin entra.
« J'ai préparé le malade à votre visite, madame, » dit-il. « Mais faites attention vous-même à ne point trop vous impressionner en le voyant. Il est très malade. »«
En danger ?» dit Elinor.
« Malheureusement, oui, en très grand danger. »
Durant son court entretien avec les médecins, Elinor s'était dit à elle-même « Quoi que ce puisse être, il faut que je le supporte et que je l'endure bravement pour l'amour de lui. Je le supporterai courageusement. » Son charmant visage était aussi blanc que la mort, ses lèvres minces et fermes, fortement serrées contre ses dents,
ses yeux bruns, calmes et sans larmes. Mais son cœur battait si fort dans sa poitrine qu'elle croyait entendre chaque pulsation dans le silence de la chambre. Ses plus terribles pressentiments se réalisaient. Margrève était couchée, la tête renversée sur des oreillers superposés, et sa main inerte tombée sur le bord de la couverture qui l'enveloppait. Sa tête était couverte de linge mouillé, par-dessus lesquels la garde avait attaché un foulard rouge, dont la nuance vive faisait encore ressortir davantage la pâleur cadavérique de son visage. Ses yeux noirs avaient perdu leur expression rêveuse et brillaient d'un éclat fiévreux. Ils étaient fixés avec une expression vague sur la porte par laquelle Elinor devait entrer. « Enfin !» dit-il avec un cri nerveux. « Enfin !» Elle appuya fortement sa main sur son cœur pour en comprimer les battements et, tombant à genoux auprès de son lit, elle lui dit tranquillement « Horace, Horace, que signifie ? Pourquoi ? Pourquoi vous retrouvais-je ainsi ?» Il fixa sur elle ses grands yeux brillants en lui répondant « Ce que c'est, Elinor, faut-il que je vous le dise ?»« Oui, oui, si vous pouvez me le dire sans vous agiter. »« M'agiter ?» Il se mit à rire avec un ricanement rempli d'amertume tout à fait extraordinaire. « M'agiter ? Regardez ceci !» Il allongea une main maigre, à demi-transparente, qui trembla comme une feuille, jusqu'à ce qu'il la laissa retomber sans force sur le lit. « Depuis 4 ans, Elinor, j'use lentement ma vie, minée par une longue fièvre nerveuse, et vous me dites de ne point m'agiter ?» Il poussa un soupir d'impatience et d'inquiétude, et soulevant sa tête fatiguée sur les oreillers, il tourna son visage du côté du mur. Elinor regarda autour de la chambre, dans laquelle le brillant, l'accompli, l'admiré, le fascinateur Margrève était couché depuis 11 tristes jours, 11 nuits douloureuses. C'était un petit appartement, confortablement meublé et chauffé par une grille. Sur la table, auprès du lit, un livre d'heures était ouvert, avec un chapelet, sur la page où la lectrice en était restée. Auprès de lui se trouvait une Bible anglaise, également ouverte. La sœur de charité qui avait soigné Margrève lui avait procuré cette Bible, dans sa propre langue, dans l'espoir qu'il la lirait. Mais lorsque le malade avait sa raison, il lui parlait en français, et lorsqu'elle le suppliait de voir un prêtre catholique, il refusait avec un geste plein d'impatience qu'il répétait lorsqu'elle lui parlait d'un ministre protestant qu'elle connaissait et qu'elle pouvait lui amener. La triste lampe était cachée aux yeux du malade au moyen d'un abat-jour en porcelaine blanche qui masquait la lumière et projetait les grandes ombres du mobilier le long des murs de la chambre. Il resta quelque temps tout à fait tranquille, son visage détourné d'Elinor, mais par le mouvement continuel de sa main sur la couverture, elle voyait qu'il n'était point endormi. Le docteur ouvrit tout doucement la porte et regarda. « S'il vous dit quelque chose, dit-il tout bas à Elinor, écoutez-le tranquillement, mais ne lui faites aucune question et surtout ne montrez aucune agitation. » Elle baissa la tête en signe d'assentiment et le médecin sortit et referma la porte. Tout à coup, Margrève tourna son visage de son côté et, la regardant fixement avec des yeux hagards, il lui dit « Elinor, vous me demandez ce que ceci signifie, je vais vous le dire. Le jour même où vous quittâtes l'Angleterre, un hasard étrange me conduisit au centre d'une ville manufacturière, une ville ravagée par une fièvre pernicieuse. Ma santé était faible et, comme on devait s'y attendre, j'attrapai cette fièvre. Je fus averti lorsqu'il était encore temps de prendre des précautions qui auraient pu me sauver. Mais je n'en fis rien. J'étais trop lâche pour me suicider. Quelques gens prétendent qu'un homme est trop courageux pour se détruire. Je ne l'étais pas, j'étais beaucoup trop lâche. La vie m'était insupportable, mais j'avais peur de mourir. Malgré cela, je ne voulais point éviter un danger que je n'avais point cherché. La fièvre pouvait me tuer si cela lui plaisait. Elinor, mon souhait s'accomplit rapidement, je vais mourir. Horace, Horace ! Elle tomba de nouveau à genoux auprès du lit et prenant sa main amaigrie dans les siennes, elle la porta à ses lèvres. Il la retira comme si elle eût été piquée. Pour l'amour de Dieu, Elinor, si vous avez un peu de pitié, point de tendresse. Je ne pourrai le supporter. Depuis 4 ans, vous ne m'avez jamais vu sans masque. Je vais le laisser tomber. Vous allez me maudire, vous allez bientôt me haïr, Elinor.
Vous haïr, Horace, jamais.
Il agita sa main avec impatience, comme pour éviter des protestations qui, bientôt, seraient inutiles.
Attendez, dit-il, vous ne savez pas.
Après une courte pause, il continua.
Elinor, n'ai-je pas été le plus tendre et le plus complaisant des tuteurs, dites, envers ma charmante pupille? Vous m'avez reproché ma froide indifférence, un jour, peu de temps après votre mariage, dans le petit salon d'Erford Street.
Vous vous souvenez de cela?
Je me souviens de cela, Elinor. Vous ne m'avez jamais dit un mot dans votre vie dont je ne me souvienne aussi bien que de l'accent avec lequel il fut prononcé et l'endroit où il fut dit. Je le répète, n'ai-je pas été un tendre et affectionné tuteur pour vous, Elinor?
Vous le fûtes autrefois, Horace, dit-elle.
Je le fus autrefois. Quand donc, Elinor?
Avant que mon oncle me laissât cette maudite fortune.
Cette maudite fortune? Oui, elle nous sépara tout de suite et pour toujours.
Elinor, il y avait 2 raisons pour cette misérable comédie et pour cette froide indifférence.
Pouvez-vous en deviner une?
Non, répondit-elle.
Vous ne pouvez pas? J'affectais une indifférence que je ne ressentais point et je feignais une apathie qui n'était que mensonge parce que, Elinor, je vous aimais de toutes les forces de mon cœur et de mon âme depuis le commencement jusqu'à la fin.
Oh, Horace, Horace, par pitié!
Elle étendit les mains comme pour l'implorer et comme si elle eût voulu l'empêcher de prononcer des mots qui semblaient briser son cœur.
Elinor, lorsque vous n'aviez que 17 ans, vous n'aviez point l'idée d'hériter de la fortune de votre oncle. Il eût bien mieux valu, et c'eût été une chose plus naturelle, qu'il eût laissé à son fils adoptif, Henry Dalton. Votre pauvre père s'attendait à cela, ainsi que moi. Votre père me confia la gérance de votre modeste fortune, et je m'acquittai de cette tâche avec probité. J'étais un spéculateur habile, je jouais avec des milliers de livres et je jetais des sommes très fortes, comme un joueur jette une carte sur la table de jeu. Et pour moi, la modeste fortune de votre mère était un gage si insignifiant que je n'y faisais aucune attention. Dans ce temps, j'étais en train de devenir un homme riche. Par le fait, j'étais riche et, Elinor, j'étais un homme honorable. Je vous aimais, comme je ne croyais pas pouvoir aimer ma belle et innocente pupille. Comment pouvait-il en être autrement? Je ne suis point fat, Elinor, et s'il y a un caractère que je méprise, c'est celui de séducteur. Mais j'osais me dire, j'aime et je suis aimée. Ses yeux bruns et profonds, Elinor, m'avaient appris le secret d'un cœur jeune et confiant. Et je me crus trop heureux, trop souverainement heureux. Oh, Elinor, Elinor, si j'avais parlé alors!
Sa tête était cachée dans ses mains, tandis qu'elle était agenouillée près de son oreiller, et elle sanglotait tout haut.
J'avais le temps, me disais-je. Elinor, ce temps fut le plus heureux de ma vie. Vous souvenez-vous de nos tranquilles soirées dans la rue Saint-Dominique, lorsque je laissais les affaires et leurs soucis derrière moi, dans Verulam Building? Et que j'accourais ici pour passer une semaine dans la société de ma jeune pupille. Vous souvenez-vous des livres que nous lûmes ensemble? Grand Dieu, il y a une page dans les Odes de Lamartine que je puis voir encore. Je puis voir les ombres et les clairs que je vous appris à mettre sous la coupole d'une église de Munich qu'un jour vous étiez en train de peindre à l'aquarelle. Je puis me rappeler toutes les pensées, tous les mots, tous les plaisirs et toutes les émotions de ce temps tranquille, pendant lequel, Elinor, j'espérais et je croyais que vous seriez ma femme. » Elle leva son visage inondé de larmes et, le regardant pendant un instant, elle laissa retomber sa tête dans ses mains. « Votre oncle mourut, Elinor, et le bel échafaudage du palais de ma vie que j'avais élevé avec tant de confiance s'écroula tout d'un coup. » La fortune vous était laissée à la condition que vous épouseriez Henry Dalton. Les femmes sont ambitieuses. Vous ne refuseriez jamais une telle fortune. Vous épouseriez le jeune Dalton. C'était la réponse que faisait l'avoué à toutes ces questions importantes. Mais les tendres yeux foncés, regardant au travers du voile formé par ses cils noirs, lui avaient révélé un tendre secret, et peut-être que votre cœur généreux regarderait comme trop peu de choses cette fortune pour la préférer à l'homme que vous aimiez. C'était la réponse de l'amant, et j'espérais encore, Elinor, obtenir ma bien-aimée. Vous ne deviez apprendre les conditions du testament de votre oncle qu'à l'époque de votre majorité. À sa mort, vous aviez à peine 20 ans, ce n'était donc qu'au bout d'un an que vous apprendriez la condition attachée à cette fortune inattendue. Pendant ce temps, moi, comme unique exécuteur testamentaire, votre oncle, comme vous voyez, avait la plus grande confiance en moi. J'avais la gérance de la fortune laissée par John Harden d'Arden. Je vous ai dit, Elinor, que j'étais un spéculateur. Ma profession me poussait dans le chemin de la spéculation. Confiant dans la puissance de mon intelligence, je mis en jeu ma fortune sur les étonnants hasards de l'année 1846. Je doublai cette fortune, je la triplai, la quadruplai, et lorsque je l'eus réalisée, je la doublai de nouveau. Elle n'était plus entre mes mains, mais je la croyais aussi en sûreté qu'entre les mains de mon banquier. La compagnie de chemin de fer, dont j'étais directeur, était une des plus riches et des plus florissantes d'Angleterre. Ma propre fortune, comme je viens de vous le dire, était placée et se doublait rapidement. En qualité de curateur, et comme votre ami dévoué, vos intérêts m'étaient plus chers que les miens. Pourquoi ne spéculerais-je pas avec votre fortune? Ne la doublerais-je point pour vous dire après? Voyez, Elinor, voici deux fortunes dont vous êtes la maîtresse. L'une que vous devez à Henry Dalton, d'après la condition du testament de votre oncle, l'autre vous appartient à vous seul. Vous êtes riche, vous êtes libre, sans faire aucun sacrifice, d'épouser l'homme que vous aimez, et ceci, Elinor, est mon ouvrage. Voilà ce que je croyais pouvoir vous dire à la fin de cette grande année de spéculation 1846. Oh, Horace, Horace, je vois tout! Épargnez-vous, épargnez-moi, n'en dites pas davantage. M'épargner? Non, Elinor, pas une seule angoisse, pas un seul brisement de cœur. Je mérite tout. Vous aviez raison dans ce que vous disiez dans le boudoir de Sir Lionel. L'argent ne m'appartenait pas. Nul sophisme, nul ingénieux arrangement de fête ou de conclusion forcée ne pouvait jamais le rendre mien. Comment, même aujourd'hui, puis-je savoir si votre intérêt seul me guidait? Comment sais-je si ce n'était point la folie du joueur qui me poussait au crime? Le sais-je? La catastrophe arriva, votre fortune et la mienne furent engouffrées dans cette perte immense, et moi, le curateur, l'ami de votre père, l'avoué consciencieux, dont le nom était devenu synonyme d'honneur et de probité, moi, Horace Wilmerden Margrave, descendant en ligne directe du capitaine royaliste Margrave, qui périt à Worcester, combattant pour son roi et l'honneur de sa noble race, moi, Elinor, j'étais un escroc et un fripon, un malhonnête homme et un misérable. Un homme déshonoré, Horace? Non, non, seulement un homme qui s'est trompé. Trompé, Elinor? Oui. C'est le mot inventé par les malhonnêtes gens pour cacher leur improbité. Le banquier frauduleux qui ruine des milliers de personnes qui ont eu confiance en lui a été entraîné, comme disent ses amis, et s'est seulement trompé. Un commis qui a volé son patron, avec l'espérance insensée de rendre ce qu'il a pris dans sa caisse, s'est seulement trompé, comme le plaide son avocat devant des jurés, attendri par l'exemple de leur propre fils. Le spéculateur, qui joue le grand jeu du hasard commercial avec l'argent d'un autre, lui aussi ose regarder le monde avec un visage pitoyable et s'écrie « Hélas, je me suis trompé !» Non, Elinor, jamais je n'ai mis cette excuse en avant. Depuis l'instant de cette terrible catastrophe qui a jeté mon existence dans la ruine et la désolation, j'ai au moins essayé de regarder mon destin en face. Mais je n'ai point supporté seul mon fardeau. Le poids le plus lourd de mon crime a pesé sur les épaules innocentes de Henry Dalton. Henry Dalton, mon mari? Oui, Elinor, votre mari, le plus loyal, le plus honorable et le plus consciencieux des hommes. Vous le louez trop, dit-elle presque avec amertume. Oui, Elinor, je suis assez faible et assez méchant pour ressentir une peine cruelle en étant forcé de le faire. C'est le dernier misérable service que je puisse lui rendre. Le ciel sait si je lui ai assez fait de mal. Une conversation aussi prolongée l'avait complètement épuisé et il tomba en arrière sur ses oreillers, à moitié évanoui. La sœur de charité, appelée de la chambre voisine par Elinor, lui administra un cordial et il continua d'un ton bas et brisé. Depuis le moment de ma ruine, je sentis et je reconnus que vous étiez perdu pour moi. Je pouvais supporter ce coup, je ne croyais point que mon existence serait longue. Elle n'avait jusqu'alors été éclairée par aucune étoile d'espérance, ni par le soleil de l'amour. Vogue la galère, qu'elle poursuive sa route jusqu'au bout. Je dis que je pouvais supporter cela, mais je ne pouvais supporter la pensée de votre mépris, de votre aversion pour moi, c'était trop amer. Je ne pouvais venir à vous et vous dire que je vous aime. Je vous ai toujours aimé, je vous aime comme je n'ai jamais aimé, comme je n'espérais jamais pouvoir aimer. Mais je suis un fripon et un escroc, et vous ne pouvez jamais m'appartenir. Non, Elinor, je ne pouvais faire cela, et cependant, vous étiez à la veille d'atteindre votre majorité. Il fallait prendre une mesure, et la seule chose qui pouvait me sauver de cette alternative était la générosité de Henry Dalton. J'avais beaucoup entendu parler du fils adoptif de votre oncle et je l'avais souvent rencontré à Arden. Je le connaissais pour être l'homme le plus noble et le plus sincère qui jamais ait existé. Je pris donc la résolution de m'adresser à sa générosité et de tout lui révéler. Il me méprisera, mais je supporterai mieux son mépris que le dédain de la femme que j'ai aimée. Je me dis cela à moi-même et, un soir, le soir que Henri vous eut vu pour la première fois et avait même été ébloui par l'éclatante beauté de mon adorable pupille, je fis venir Dalton dans mes bureaux à Verulam Building et, après l'avoir lié par un serment de garder le secret le plus absolu, je lui racontai tout. Vous comprenez à présent la cruelle position dans laquelle Dalton était placé. La fortune qu'il était censé posséder en vous épousant n'existait point. Vous étiez sans fortune, excepté pourtant les 100 livres sterling de rente venant de l'héritage de votre mère. Son serment solennel lui défendait de vous le révéler, et depuis 3 ans, il a enduré votre mépris et il s'est tu. Jugez à présent du mal que je lui ai fait. Jugez à présent du noble cœur sur lequel vous avez marché et que vous avez torturé. « Oh, Horace, Horace, quel malheur cet argent nous a occasionné !»« Non, Elinor, quel malheur a attiré sur nous la déviation de la ligne droite de l'honneur !»« Elinor, la seule femme que j'ai aimée, pouvez-vous pardonner à l'homme qui vous a véritablement aimée ? Et cependant, si profondément blessée, vous pardonnez ?» Elle était à genoux, elle se releva, et, lissant ses noirs cheveux sur son front pâle, avec une main tendre et miséricordieuse, elle le regarda fixement. « Horace, dit-elle, quand il y a longtemps, vous avez cru que je vous aimais, vous avez lu dans mon cœur, mais vous n'avez jamais pu deviner la profondeur de cet amour. À présent que je suis l'épouse d'un autre auquel je dois tant d'affection, en réparation du mal que je lui ai fait, je puis vous dire sans rougir et sans péché combien je vous aimais, et vous me demandez si je puis vous pardonner. Aussi volontairement que j'eusse abandonné cet argent par amour pour vous, je puis vous pardonner pour sa perte. Cette confession a tout arrangé. Je serai une bonne épouse pour Henri, et vous et lui pouvez encore être sincèrement amis. Quoi, Elinor ? Pensez-vous que si je n'eusse point su que j'allais mourir, je vous eusse fait cette confession ? Non, vous me voyez à présent sous l'influence de stimulants qui me donnent une force factice, une excitation assez puissante pour maîtriser la mort même. Demain soir, Elinor, les médecins m'ont dit qu'il n'y aurait plus sur cette terre de chagrin et d'ennui une créature faible, vacillante et déshonorée appelée Horace Margrave. Il étendit ses mains amaigries, l'attira vers lui et imprima un baiser sur son front.
« Le premier et le dernier, Elinor, dit-il. Adieu !»
Son visage devint encore plus pâle et il tomba en arrière, privé de connaissance. Le médecin, passant sa tête par la porte entr'ouverte, supplia Elinor de s'éloigner. « Il faut que vous le quittiez à l'instant, ma chère dame, dit-il. Si je n'eusse vu l'horrible trouble de son esprit, je n'eusse jamais permis cette entrevue.
« Oh, monsieur, dites-moi, pouvez-vous le sauver ?»«
Par un miracle seulement, madame, un miracle bien au-dessus de la science médicale. »«
Alors, vous n'avez plus d'espoir ?»«
Pas l'ombre d'espoir. » Elle baissa la tête. Le médecin prit sa main dans la sienne et la lui serra paternellement en la regardant avec pitié et chagrin.
« Envoyez-moi chercher demain, dit-elle en l'implorant.
« Votre présence ne peut que le rendre plus malade, madame, mais je vous enverrai de ses nouvelles. Adieu !» Elle baissa de nouveau la tête et, sans prononcer une parole de plus, elle se hâta de sortir de la chambre. Le lendemain matin, comme elle était assise dans sa chambre, on l'appela encore une fois dans le salon. La sœur de charité était là, causant avec sa tante. Toutes deux paraissaient graves et pensives et jetèrent un regard d'inquiétude sur Elinor lorsqu'elle entra dans la pièce.
« Il est plus mal, » dit Elinor à la sœur avant qu'un seul mot eût été prononcé.
« Malheureusement, oui, madame, il est... »«
Oh, par pitié, ne m'en dites pas davantage, » s'écria-t-elle. « Si jeune, si bien doué, si admiré. » Et c'est dans cette même chambre que nous avons passé des heures si heureuses il y a quelques années. »
Elle marcha avec des yeux secs vers la fenêtre et, appuyant sa tête sur la vitre, elle regarda dans la rue, puis le ciel triste d'une journée d'automne. Elle pensait combien le monde allait lui sembler nouveau et étrange à présent que Margrave était mort. On éleva une modeste tombe sur les restes d'Horace Margrave dans le cimetière du Père Lachaise. On avait d'abord songé à faire conduire ses cendres dans son pays natal afin qu'elle pût se reposer dans l'église de Margrave, petit village dans le Westmoreland, le sanctuaire de l'église de cet endroit étant décoré d'une statue d'Algernon Margrave, chevalier tombé à la bataille de Worcester. Mais comme le défunt n'avait pas de parents plus proches que des petits cousins, dans l'armée et dans l'église, et un grand-oncle, amiral retraité, que, de plus, on découvrit que l'avoué accompli de Verulam Buildings, Gray's Inn, ne laissait pas un sou, on abandonna bien vite cette idée, et les dépouilles mortelles d'Horace, tant admirées, furent abandonnées à une tombe étrangère. On ne sut jamais qui fit placer la simple inscription qui décorait l'endroit où il reposait. C'était un bloc de marbre uni, sans épitaphe latine ni de longue liste de vertus. Mais une torche à demi brûlée, éteinte tout à coup, était sculptée au milieu de la tablette, tandis que, de la fumée de la torche, s'élevait un papillon. Outre ce dessin, il n'y avait que le nom et l'âge du défunt. La nuit qui suivit les funérailles de Margrave, Dalton était assis, travaillant avec ardeur, dans son cabinet du temple. La lumière de la lampe du bureau, en tombant sur son visage calme, révélait une expression de tristesse qui ne lui était point habituelle. Il paraissait vieilli de 10 ans depuis son mariage avec Elinor. Il avait combattu dans la bataille de la vie et perdu cette bataille, si légère pour les uns, si rude pour les autres. Il l'avait perdue en essayant de gagner la confiance de la femme qu'il eut si tendrement et si sincèrement aimée. Il ne lui restait donc rien, à présent, que sa profession, pas d'autre ambition, pas d'autre espoir. « Je vais travailler dur, afin que, quoique séparée de moi pour toujours, elle puisse au moins goûter quelques plaisirs, quelques-unes de ces pauvres joies qu'elle pourra acheter avec l'argent gagné par mon travail. » Il ne savait rien du voyage de Margrave, ni de sa maladie, ni de sa mort. Il n'avait pas l'espoir d'être délié du serment qui lui imposait le silence, silence qu'il avait juré de garder tant que vivrait Margrave. Fatigué, mais persévérant quand même, absorbé par une difficile affaire qui demandait toute l'habileté du jeune avocat, il lut et écrivit jusqu'à 11 heures. Juste au moment où les horloges sonnaient la demie après 11 heures, il entendit la sonnette de la porte extérieure qui tintait, comme si elle eût été tirée par une main agitée. Ses appartements étaient au premier étage. En bas étaient ceux d'un monsieur qui quittait la maison toujours à 6 heures. « Je n'attends personne à pareille heure, mais ce pourrait bien être pour moi, » pensa-t-il. Il entendit son clerc ouvrir la porte et continua d'écrire sans lever la tête. 3 minutes après, la porte de son cabinet s'ouvrit et une personne entra sans être annoncée. Il leva soudain la tête. Une dame, vêtue de deuil et le visage caché par un voile épais, se tenait près de la porte. « Madame, » dit-il avec surprise, « puis-je vous demander ?» Elle s'avança vivement de la porte près de laquelle elle se tenait et, tombant à genoux, tandis qu'elle relevait son voile, « Elinor !»« Oui, je suis en deuil de Margrave, de mon malheureux tuteur. Il est mort il y a 8 jours à Paris. Il m'a tout conté, Henri, mon ami, mon mari, mon bienfaiteur. Pouvez-vous me pardonner ? Pouvez-vous me pardonner ?» Il passa rapidement sa main sur ses yeux et détourna la tête. Quelques moments après, il enleva dans ses bras et, l'attirant sur sa poitrine, il lui dit d'une voix brisée « Elinor, j'ai souffert si longtemps et si cruellement que j'ai peine à supporter cette forte émotion. Mon adorée, ma chère et bien-aimée femme, sommes-nous enfin délivrés de ce terrible secret qui a exercé une si cruelle influence sur notre existence ?» « Margrave ? Il est mort, Henri. Je l'ai aimé autrefois avec tendresse. Je lui ai volontiers pardonné le mal qu'il m'a fait. Dites-moi que vous lui pardonnez aussi. Du fond de mon cœur, mon Elinor. »